Hey, t'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs.
Hey, you talking to me?
Vers l'infini et au-delà!
Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode de du podcast Qui Filme, l'épisode numéro 13, aujourd'hui dédié aux séries. Autour de la table, Atel Zeda,
salut.
Jouk,
salut.
Docteur Mad Geek,
salut.
Et moi-même, Monsieur Lours. Donc, comme à son habitude, on va vous parler des séries qui nous ont plu ou qui nous ont un petit peu moins plu ces derniers temps. Et puis, bah, on va commencer direct avec toi, Atel Zeda. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui?
Eh bien, je vais vous parler de American Gods. Et plus précisément, je vais vous en parler à la suite de la saison 2 qui plus ou moins vient de se terminer, en tout cas qui est disponible sur Amazon Prime et non pas Netflix pour une fois. Donc voilà, alors le brief d'American Gods, globalement pour résumer, il y a les dieux quelque part au fil des siècles passés ont fui les anciens continents, donc Europe et tout, enfin on va dire Europe, j'allais dire historique, mais
continental.
Continental, mais également on a les dieux vikings qui sont venus là, on a les dieux indiens, enfin voilà, ils ont tous échoué aux États-Unis et ils essayent de vivre et de se fondre plus ou moins. Enfin, ils ont essayé de vivre et de se fondre plus ou moins parmi la population américaine, quitte à devenir à passer complètement inaperçu, quoi. Total, au cours des années, ils ont perdu en fait, j'allais dire leurs fans, tellement on est habitué aux réseaux sociaux, mais ils ont perdu leurs
adeptes,
fidèles, voilà. Et donc ils se font remplacer par des nouveaux dieux que sont les médias, la technologie, les réseaux sociaux, etc. Donc American Gods, qu'est-ce que c'est? C'est la guerre des anciens dieux contre les nouveaux dieux. Alors là, je vous dis comme ça ressemble à un brief de série, mais tout ce que je viens de vous raconter là, c'est 100% de la saison 1.
Ok.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur la saison 1, on a une saison qui est assez longue à se mettre en place, parce que pour comprendre tout ça, vous avez déjà bouffé quelques épisodes. Mais cela dit, ça construit quand même une sorte d'intrigue. On se demande pourquoi, on se demande un peu qui c'est ces mecs. On commence à se rendre compte qu'ils ont un peu plus de pouvoir et qu'ils réagissent pas exactement de la même façon. Donc, on peut passer cet épisode-là, même si on se dit putain, mais de quoi on me parle, quoi. Mais ça marche parce que les acteurs sont là. Il y a une image, il y a un traitement de l'image, de la couleur, de la photo qui est super sympa. Il y a une vraie ambiance dans la série. Donc voilà, malgré ce gros reproche que j'ai fait à la saison 1, qui est de quoi on me parle, on est sur une saison que finalement j'ai assez aimé, une intrigue qui nous fait toujours aller à l'épisode d'après en disant attends, là je vais forcément apprendre un peu ce qui va se passer, donc j'y vais, je continue. Et à la saison 1, à la fin de la saison 1, on a un peu tous les éléments et on se dit ah ça y est, j'ai compris, fin de la saison. Donc vous dites super, bah il y a un gros voilà, à la fin de la première saison il y avait un gros maintenant faut attendre la saison 2. Donc saison 2 dispo depuis je sais pas quelques mois ou semaines sur Amazon Prime et que j'ai regardé récemment. Alors niveau photo, c'est vraiment dans le traitement de l'image et tout, il y a un truc que j'aime bien, vraiment. Il y a un truc à un côté Amérique profonde avec un mélange un peu il y a plusieurs dieux qui sont un peu ancrés, on va dire, certains un peu dans les années 60, d'autres carrément un peu dans les années 20 ou 30. Donc il y a vraiment un mélange qui se fait qui est intéressant. Donc ça on retrouve de la même façon et c'est vraiment plaisant. Par contre, clairement, j'ai eu du mal à aller au bout de la deuxième saison, parce que le gros reproche de la saison 1 qui est de voilà, de quoi on me parle, et ben la saison 2 en fait c'est pas de quoi on me parle, puisque je sais déjà, c'est juste maintenant faut balancer la suite, quoi. Et au bout d'une saison 2, ben les mecs ils ont quasiment pas avancé. Il y a pas de progression de la narration. Alors oui, en fait, vu que on sait que la guerre approche entre les dieux et tout ça, il y a les anciens dieux doivent constituer des alliances et tout ça, en gros, pour se regrouper, pour combattre les nouveaux dieux qui sont surpuissants, parce que c'est les médias et tout ça, quoi. Mais non, pour le coup, c'est vraiment lent, il se passe pas grand chose. Il y a des petites anecdotes, enfin des petites histoires parallèles qui se développent et qui sont sympas en soi, mais ça constitue pas un air de la guerre assez conséquent pour qu'on ait envie à chaque épisode de se dire qu'est-ce qui va se passer, quoi. Donc moi j'étais au bout, mais j'étais au bout parce qu'en fait j'étais encore dans l'élan de la saison 1 en mode, putain, le pitch est génial, cette histoire de confrontation entre les anciens dieux et les nouveaux dieux, c'est, franchement, c'est une bonne idée, je pense. Il y avait, il y a un truc à faire, les mecs, ils ont un bon pitch, ils ont une belle photo, ils ont des acteurs qui ont vraiment de la gueule, qu'on aime bien. Il y a des petits comme ça, des petits pics un peu scénaristiques qui sont, quelque part hyper bien choisi, c'est des petites histoires parallèles. Enfin, tu vois, l'acteur principal, donc qui est un mec que en fait le dieu qui mène la guerre pour les anciens dieux, c'est Odin. Et, donc on apprend ça normalement au bout de quelques épisodes. Et lui, en fait, il choisit. On a l'impression que c'est plus ou moins par hasard. Il choisit un mec qui sort de tôle et il lui dit bah est-ce que tu veux être mon homme de main? Bon, le mec il sort de tôle, il a pas de fric et tout. Au début il dit bah non, je vais retrouver ma meuf. Tu m'intéresses pas. Puis il sait pas que c'est un dieu, le gars. Il pense que c'est juste un gars qui lui dit « Tu veux être mon homme de main, quoi. » Donc, et bim, la meuf du mec, elle meurt juste à ce moment-là.
Comme de par hasard.
Ouais, alors elle meurt en suçant la bite de son meilleur pote dans un accident de bagnole.
D'accord.
Donc, vous voyez, il y a des petits côtés comme ça, un petit peu trash.
Une série résolument adulte, donc.
Voilà, tout à fait. Sauf qu'en plus, cette meuf, elle va ressusciter. Okay. On sait pas trop pourquoi. Et du coup, elle va essayer de protéger son mec et de le reconquérir alors qu'elle est morte et qu'elle pourrit, enfin je vous raconte pas. Donc il y a des histoires comme ça à côté qui sont assez fun, qui ont un côté vraiment décalé. Il y a un univers qui est vraiment sympa, mais il y a une saison 2 qui assume pas et puis qui nous fait pas progresser. Donc qu'est-ce que je fais au bout de la saison 2? Est-ce que j'arrête en me disant la saison 2 j'ai perdu mon temps? Ou est-ce que vu que j'en suis exactement au même point que la saison 1 et que j'ai quasiment rien appris pendant une saison 2, je me dis, bon, et dans la saison 3, les mecs, ils ont pas le choix, ils vont devoir envoyer du steak, et il va vraiment se passer un truc, et la guerre va commencer, tu vois. Et je vais aussi comprendre pourquoi, parce que ce mec, s'il a choisi un black, là, qui sortait de tôle, c'est sûrement pas au hasard, donc je vais comprendre tout ça, et je vais, bon, on a déjà des petites pistes et tout, mais il va vraiment, ça y est, on va y avoir l'épiphanie, on va tout capter, ils vont commencer à se mettre sur la gueule, et puis ils vont faire une saison 3 en apothéose. Alors, voilà, j'en suis là. Est-ce que j'y vais, en attendant ça, au risque de me faire chier encore une saison entière? Ou est-ce que je me dis, bon, les gars, ils ont merdé la saison 2, bien fait pour leur gueule, et j'arrête les frais?
Donc, j'ai abandonné longtemps avant, ouais.
Ouais, bah, ça me surprend pas, ouais.
Et pourtant, quand je revois aujourd'hui les bandes annonces, parce que là, ils m'attraquent vraiment partout en ce moment, putain, je trouve toutes les images géniales, quoi. J'ai envie de m'y remettre.
Et graphiquement, il est chouette, hein. Il est très très chouette, hein. Donc voilà, c'est moi je l'avais noté 7 sur 10 à l'issue de la saison 1. J'ai pas modifié ma note pour l'instant à l'issue de la saison 2. Je suis pas en mesure de vous le conseiller. Si vous êtes un peu courageux, que vous allez vous attacher aux histoires parallèles et que vous allez kiffer les graphismes, vous pouvez y aller. Après, bon, bah, clairement, on n'est pas sur la série du siècle, quoi.
C'est une saison de combien d'épisodes?
On est sur une série, de environ 8 épisodes, c'est ça, okay. La 1 comme la 2. Donc 2 saisons parues pour l'instant, pour des épisodes qui doivent durer aux alentours de 40-45 minutes, plutôt même 40, je crois, qui sont finalement assez brefs.
Est-ce que vous avez des références de bastons de dieux dans le cinoche ou les séries qui ont bien fonctionné?
Le choc des titans?
Aquaman.
C'est pas des références.
Ouais, c'est des super-héros. Ouais,
il y a des dieux
titans,
dans Aquaman.
Il y a des dieux, mais c'est souvent assez raté, quoi.
Ah ouais, c'est vrai.
C'est raté. Ouais. Ouais, mais par contre, cet axe, tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est cet axe nouveau dieu versus
vieux dieu. Ouais, ça, c'est hyper intéressant, par contre.
C'est hyper intéressant, surtout qu'il y a...
Et c'est une adaptation de... C'est une adaptation.
Ouais, c'est un bouquin de Neil Gaiman.
Neil Gaiman, ouais. Donc clairement, niveau univers, t'es servi déjà.
Ils ont mis que les dieux des religions polythéistes ou ils se sont risqués à mettre Allah, Joseph, tout ça?
Ils sont pas du tout éclectiques sur les dieux. Mm-hmm. Ils ont pris, je pense, ceux qui les arrangeaient. Globalement, par exemple, Dieu, Allah et ceux-là, ils sont pas présents, en fait. Oui, t'as des vagues allusions à Jésus-Christ, mais Dieu en soi, t'en entends pas parler.
Je te connais pas.
Donc t'as la reine de Shabbat là, t'as la déesse de l'amour,
la reine de Shabbat, carrément.
Non, pas de Shabbat. Comment
de Saba, la reine de Saba.
La déesse de l'amour qui mange des gens par son sexe.
Ils ont pris des dieux qui n'antagonisent pas les gens non plus, quoi. Ils n'ont pas allé chercher Allah avec ce que ça.
Non, clairement pas. Ils évitent certains écueils. Ouais. Mais tant mieux aussi.
Est-ce qu'il y a The Rock?
Oui, certes. Ouais.
Non, il n'y a pas The Rock.
Ouais. Non. Bah non,
mais cela dit, l'acteur principal, il est un peu plus black, mais il est un peu costaud. Donc voilà, ouais. American Gods, allez-y, n'y allez pas. Ça dépend ce qui vous intéresse dans une série, quoi.
Ok, merci. Disponible sur, donc, on le rappelle, Amazon
Prime.
Jouk,
oui,
de quoi
moi.
Tu vas nous parler?
Eh
ben,
comme il y a quelques temps pour le podcast qui filme où j'étais sur le film où j'étais sur les Russes, je continue sur les Russes avec la série, la mini-série Tchernobyl, qui est une mini-série en 5 épisodes d'HBO sur la ville de Pripyat. Non, bien sûr sur la catastrophe de Tchernobyl. Donc voilà, donc 5 épisodes. Moi déjà de base j'adore les mini-séries parce qu'au moins t'as pas de problème de scénario, de quoi que ce soit, tu sais que ça va être un début, une fin. Évidemment là ça reprend le but du jeu de Tchernobyl, c'est vraiment de reprendre les faits de ce qui s'est passé à Tchernobyl après l'explosion. C'est-à-dire que là au moment où on enregistre, il y a que 2 épisodes qui ont été diffusés et que j'ai vu. Le premier épisode, le tout début de l'épisode, c'est l'explosion du réacteur 4 et après c'est tout ce qui va se passer derrière avec le traitement politique, avec la gestion de la crise à la fois sur place et à la fois à Moscou.
Voilà, ça que ça va devenir notre expert géopolitique russe.
Ouais, il adore tous les films comme ça.
C'est pas que j'adore, c'est que du coup ça m'a attiré parce que c'est un truc qui fait partie de la vie de tout le monde.
C'est comme moi et ma passion pour la Seconde Guerre mondiale.
Ouais, mais j'ai la même en plus, mais des trucs comme ça historiques, moi je trouve ça super intéressant. Et là pour le coup, la série est extrêmement bien réalisée, c'est du HBO en pleine forme, vraiment, avec des excellents acteurs, avec une vraie réale. Au niveau de l'histoire, en fait, le seul petit souci, mais que je vais avoir moi, pas forcément tout le monde, c'est qu'à partir du moment où vous avez vu l'excellent documentaire qui est paru il y a très longtemps, qui s'appelle La bataille de Tchernobyl, en fait, vous savez à peu près tout de ce qui va être dit dans la série et comment ça va être évoqué. Mais c'est toujours super intéressant de voir les scènes rejouées avec des acteurs, avec des très bons acteurs en plus. Il y a vraiment quelque chose. C'est difficile d'avoir un avis définitif sur la série parce que il me manque 3 épisodes. Mais là, jusqu'ici, c'est vraiment excellemment bien joué. Ça fout des frissons dans le dos. Alors moi, je suis pas surpris par l'histoire parce que les trucs qu'ils racontent pour l'instant, comme je disais, je les avais déjà appris dans le documentaire La bataille de Tchernobyl. Mais même en sachant ce qui va arriver, enfin de le voir rejouer, de voir les scènes, de voir ce qui a pu se passer, ce qui a pu être dit, fait à cette époque-là, ça fout vraiment des frissons dans le dos. Et toujours pareil, voilà, la qualité de la série est là, quoi. C'est du vrai HBO qui fait du bon boulot.
Ok, très bien. Est-ce que par curiosité, du coup, les personnages parlent en russe?
C'est une des critiques de la série, c'est qu'il y a du russe par moment quand on entend la radio, ce genre de choses-là, mais en fait ils ont pris le parti de faire parler les personnages en anglais. Voilà, en plus, du coup, c'est une critique que je peux entendre parce que non seulement ils n'ont pas pris le virage complet, c'est-à-dire qu'ils auraient pu se dire, bon, bah, on laisse tomber le russe, on les fait vraiment en anglais et en anglais, basta. Non, ils parlent en anglais, ouais, avec un accent russe.
Okay.
Donc c'est un petit peu con d'avoir fait ça, autant aller au bout du délire et de le mettre en russe sous-titré. Bon, jusqu'ici, ça me gêne pas beaucoup. C'est vrai que quand j'ai lu cette critique-là et que j'ai vu la série, je me suis dit, oui, c'est vrai que c'est un peu con de pas être allé au bout.
C'est souvent ce qu'ils font. Ça me fait penser au Maître du Haut Château où on a des personnages, du coup, allemands et japonais qui commencent leurs phrases dans leur langue natale, mais qui, inexplicablement, la terminent en anglais en général, ouais, parce que normalement, ça va, quoi. Les spectateurs, ouais, faut quand même qu'ils soient confortablement
dans leur c'est comme les mecs qui donnent le nom francisé des séries alors que tout le monde les connaît sous un nom original.
C'est ça,
je veux dire, c'est chelou, quoi.
On appelle ça un Québécois.
Ah oui, exact.
Je vois qu'en tout cas la série est disponible a priori sur OCS en France.
Oui, tout
donc,
à fait.
Disponible légalement. J'en profite pour.
On rappelle que sur OCS en ce moment il y a un mois gratuit.
C'est ça. Je vous remercie d'être sponsor Orange. Cinéma, non pas du tout. J'en profite pour remplacer une sur une série qui traite aussi d'un problème avec une centrale nucléaire qui est la série Dark, la série allemande qui va reprendre pour une saison 2 en juin.
Ah, c'était ça le problème.
Et où il parle en allemand. Ça c'était bien.
C'est une série allemande donc du coup pour le coup tu peux la regarder. En VO sous-titré français,
ça reste original. Ouais. Ouais,
mais si vous avez aimé Inspecteur Chimansky,
elle est cool à regarder. Enfin, on en a peut-être déjà parlé, mais elle est cool à regarder en allemand sous-titré. Ouais,
c'est vrai. Moi, j'ai regardé la première saison, c'était très très bien.
Bah, pour revenir à Tchernobyl, moi je sais que déjà je suis un peu comme toi. Le principe de mini-série, j'accroche de plus en plus. J'en ai marre de me faire promener sur des saisons et etc. Donc, les mecs, quand ils commencent et qu'ils...
On dirait le personnage de Speed, etc.
Comment, à partir du moment où ils savent qu'ils ont une fin, quelque part, ils savent où ils vont, et ben je trouve que en général voilà c'est condensé, c'est propre et ça va à l'essentiel. Donc rien et... que pour ça je suis tenté de tester voilà. Ce genre de truc
et quoi. Pour ceux qui n'ont pas vu le reportage, le documentaire, comme ça vous apprendrez qu'on a failli ne plus pouvoir vivre en Europe. Oui, et c'est pas une blague.
Quoi,
c'est
ça vrai. S'est pas arrêté à la frontière.
Mais si,
non, non, c'est même pas ça. Continué. C'est même pas ça. Je vais pas. Enfin, du coup, c'est un.
Mais
peu,
spoil
c'est un, ben oui, c'est un peu spoiler un fait historique. Oui. Mais en fait, non, il y a pas eu que l'explosion. Il y a eu encore des choses après, et ils ont sacrifié des gens pour sauver, pour empêcher des choses. Si ces choses étaient arrivées, on était à quelques heures qu'elles arrivent. Si ces choses étaient arrivées, toute l'Europe centrale serait invivable, et nous en Bretagne, on pourrait peut-être vivre, mais ce serait un peu limite. Quasiment toute l'Europe.
Mais on aurait peut-être un troisième œil, et ça, c'est pas inutile, quoi.
Tu serais une corneille.
C'est même un peu classe.
Hey.
Et du coup, ouais, non, c'est pas un truc de science-fiction, de mec alarmiste ou de complotiste, etc. C'est vrai, c'est admis par l'État russe. Si les surcatastrophes qui ont failli arriver quelques heures et quelques jours après l'explosion étaient arrivées, l'Europe serait vraiment quasiment invivable.
Très bien, merci Djouk, Tchernobyl. Du coup,
voilà, bonne soirée,
merci Djouk pour l'ambiance.
En même temps, avec un titre comme Tchernobyl, on pouvait s'attendre à
c'est
quelque
ça.
Chose d'assez dramatique.
C'est
la partie géopolitique de l'émission. Merci.
Exactement.
À notre envoyé spécial Russie.
De rien.
Retour dans les studios avec Dr McGeek. Tu vas nous parler d'une série dont le titre me semble assez compliqué à dire.
Ouais, moi je vais vous parler d'une autre série Amazon Prime parce qu'on commence tous à s'habituer un petit peu à plus aller faire nos emplettes seulement sur Netflix. Hein, maintenant, on a Amazon Prime, on a OCS. Je vous rappelle aussi, pour ceux qui sont un peu curieux, que YouTube lance pas mal de séries et que souvent les premiers épisodes
ils reviennent dessus YouTube parce qu'ils ont fait un petit bide quand même.
Sont gratuits. Bah moi j'ai vu des belles choses.
Ouais non après, je dis pas pour les séries mais pour l'offre en elle-même ils ont fait un petit bide.
Donc
bref.
Moi je vous parle de Good Girls Revolt. C'est une adaptation d'un roman basé sur des faits réels. Et donc, c'est fait réel qui était l'action des femmes du magazine Newsweek dans leur procès contre leur employeur, donc aux États-Unis à la fin des années 60, début des années 70. Donc, moi, j'aime beaucoup les séries historiques. Là, pour vous mettre tout de suite dans le bain, on se rapproche vraiment d'une série comme Mad Men au niveau du décorum, de l'ambiance, des costumes et tout ça. C'est hyper intéressant. Donc à la fin des années 60, là, on suit donc la vie de plusieurs nanas qui travaillent dans un magazine fictif pour le coup, un hebdomadaire national. Et on va suivre toutes les revendications naissantes de ces femmes. Et c'est franchement super intéressant de voir ou de revoir à quel point il y a très très peu de temps la vie des femmes était encore plus compliquée qu'aujourd'hui. Donc là dans ce magazine le pitch de départ c'est un peu que ces nanas là qui font presque tout le boulot des journalistes entre guillemets. Elles sont appelées des chercheuses, parfois elles écrivent les articles à la place des hommes, mais ça reste les hommes qui signent l'article dans le magazine quoi. Donc elles sont vraiment reléguées au rang de documentaristes, elles sont moins bien payées. Elles ont pas le droit de signer ce qu'elles écrivent, etc. Et donc, une grogne commence à se faire sentir et elles vont se fédérer autour d'une avocate pour faire valoir leurs droits. Et donc, au niveau casting, c'est très très bien senti, des bonnes tronches, mais de gens quasiment... des gens inconnus, ou en tout cas qu'on n'a pas l'habitude de voir, à part Anna Camp, que moi j'avais adoré dans True Blood, une petite blonde un peu ingénue, c'était la femme du pasteur. Enfin, sous ses airs ingénus, un peu déluré, complètement cinglé, puis on retrouve un peu ce personnage-là avec beaucoup de force derrière un profil finalement assez timoré. Donc là, on va suivre Patty, qui est très... je découvre la drogue, je me libère, une belle jeune femme, etc. Cindy, qui elle est coincée dans son mariage, donc c'était encore l'époque où... de toute façon, fallait pas essayer de faire carrière puisque t'allais te marier. Et que donc, à partir du moment où t'allais te marier, bah, t'allais faire des enfants et puis t'allais rester à la maison pour t'en occuper, quoi. Et puis Jane, donc, cette campée par Anna Camp, donc conventionnelle, bonne famille, un petit peu carriériste. Et à travers ces trois profils, on va voir tous les combats des femmes à travers les années 60. Donc, la reconnaissance dans le travail, le rôle de femme au foyer qu'elles peuvent pas éviter. Et puis la femme objet, qui est clairement la femme objet, quoi. Donc, la suprématie de l'homme dans toutes les décisions. Et puis des choses assez incongrues ou marrantes comme voilà, on découvre assez vite dans la série ces nanas qui commencent à se libérer finalement. Cindy par exemple, la personnage de la femme au foyer là, dans un épisode pour la première fois de sa vie elle se met devant un miroir pour voir à quoi ressemble son minou. et chose qu'elle n'avait jamais faite. Donc, ni le toucher, ni le regarder, ni savoir à quoi ça ressemble, parce que c'est finalement, c'était l'objet de son mari, quoi. Et donc, on va suivre toutes ces libérations. Et ce qui est super génial, je trouve, dans cette série, c'est déjà, il y a une vraie immersion totale, à grand renfort, hein, encore de fond vert et tout ça, mais qui deviennent aujourd'hui complètement invisibles. Donc, on redécouvre le San Francisco des années 70. Ouais. Et on voit, et ce qui est super intéressant, c'est que donc, on voit cette société, mais à travers le prisme d'un journal, d'un hebdomadaire, quoi. Et donc, du coup, il y a un angle d'attaque super excellent parce qu'on suit aussi leurs grandes décisions au niveau qu'est-ce que je mets en une, par exemple? C'est historiquement un journal qui, depuis 10 ans, c'est la guerre du Vietnam, donc pour vous rappeler un peu le contexte historique. Mmh. C'est les Black Panthers, en plus de l'émancipation des femmes, et donc, on suit avec eux les choix de une, quoi. Et c'est un journal qui historiquement.
L'émancipation des gays aussi, du coup, à San Francisco à cette époque-là.
Exactement. Ouais. Et donc on va. Avant, ils faisaient que des couvertures sur la guerre parce que leurs abonnés, c'est ça qu'ils veulent lire, quoi. Et donc on les suit sur plein de questions un peu touchy comme ça, sur pourquoi on fait une est-ce qu'on essaie de damer le pion au Times, est-ce qu'on essaye de faire quelque chose d'original, ou est-ce qu'on essaie de faire quelque chose qui plaît à nos abonnés. En deuxième lecture, t'as un autre truc que j'ai trouvé super intéressant professionnellement, c'est ce côté justement, est-ce que tu fais un journal pour tes abonnés, ou est-ce que tu fais un journal pour que en kiosque de nouveaux fidèles, tu vois, soient attirés par ce que tu fais. Ce qui est évidemment pas du tout la même chose parce que tes abonnés sont souvent historiques et donc c'est souvent un peu vieillissant. Tu les as habitués à ce que t'écrivais, alors que pour survivre, il faut séduire un nouveau public, toujours plus jeune, qui a un pouvoir d'achat. Et c'est des problématiques qu'on retrouve complètement aujourd'hui dans le monde de l'édition, et je trouve ça super intéressant. Donc historiquement, c'est franchement ça fait du bien de se rafraîchir la mémoire. Il y a un petit truc qui m'a déçu, mais qui n'impacte pas la série, la qualité de la série, c'est t'aurais voulu que une série qui te replonge comme ça dans les années 70 soit blindée musicalement, comme on l'a eu sur d'autres séries qui, dont c'était presque le cœur du truc. Mais là, c'est presque inexistant, quoi. T'as un moment, un petit discours sur le jazz, mais sinon c'est hyper secondaire, voire presque invisible. Et je trouve ça un petit peu dommage. Et puis le dernier truc un peu décevant qui fait qu'on peut ne pas avoir envie de se lancer dans la série, c'est que on reste complètement sur sa fin, à la fin de la première saison, et que malheureusement le producteur de la série est un peu tombé sous les coups du hashtag MeToo, et qui donc il y aura probablement pas de saison 2, quoi.
C'est voilà. Hyper ironique, ça, quand même.
Ouais. Mais c'est hyper ironique d'ailleurs. L'anecdote, c'est que la fameuse Anna Camp là. Elle a profité du hashtag MeToo pour essayer de relancer en fait la série, en disant que si le truc s'arrêtait, c'est que le producteur en fait était misogyne et qu'il avait tout fait pour que ça se passe pas, enfin des trucs comme ça. Mm-hmm. Et donc elle avait essayé de rallier à elle d'autres maisons de prod et tout ça machin, mais a priori pour l'instant ça n'aura pas de suite, quoi. Mais ça reste voilà une super belle première saison qui permet vraiment de se rafraîchir la mémoire sur des choses pas si lointaines, quoi.
Ok.
Ouais, enfin, c'est rédhibitoire si tu dis que faut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de suite et que la saison 1 laisse complètement sur la fin.
Ça reste un bout d'histoire. Ça reste un bout d'histoire. Si tu veux savoir la fin, comme c'est tiré de faits réels, tu peux regarder d'autres documentaires qui doivent exister. Tiens, si j'avais bien fait mon boulot, je serais allé en chercher un petit peu pour vous en citer.
Ok.
Non, rien du tout.
Un bout de look.
Est-ce que c'est à rapprocher les différents films sur le monde journalistique qu'on a eu et les grosses enquêtes, je pense à Pentagon Papers, etc., etc.
Je pense ça se fait plus sur la vague MeToo que la vague.
Non, mais les trucs comme Pentagon Papers, c'était sur un fait. C'était vraiment sur un fait. Alors que là, t'es sur un mouvement. Donc, là où Pentagon Papers va durer un an, 6 mois, sur le gros du truc, je saurais même pas dire. Là, on est sur 10 ans, quoi.
La première saison, c'est 10 ans.
Non, je saurais pas dire. Je saurais pas dire exactement combien de temps ça couvre. Non, c'est plus court que ça, je pense.
D'accord, ok.
Très bien. Bah, une série du coup qui vient rejoindre un peu cette vague de séries qui mettent en avant des personnages féminins forts.
Mais si, je l'ai noté. Mais si, je l'ai noté.
Attention, petit débat sur les notes sur Kifim. Venez noter du coup cette série sur Kifim. Amazon Prime, c'est ça?
Ouais, Amazon Prime, il y a de plus en plus de trucs sympas. Tiens, d'ailleurs, l'autre jour à TLZ, je te voyais parler de la saison 2 de Fleabag.
Attends, on va laisser Guillaume parler de sa série et après j'en parle. Je refais une brève aparté sur Fleabag tout à l'heure.
D'accord. Très bien, on reviendra vers toi du coup à TLZA. Reprends la parole pour du coup vous parler de Bonding, une petite série. On retourne chez Netflix cette fois.
Avec un format tout bizarre.
Avec un format tout bizarre, puisque nous avons une saison 1 de 7 épisodes de 13 minutes chacun. Ouais. 13, 14, ça dépend, ils sont même pas tous de la même durée. Mmh. Donc c'est vraiment une série apéritive. Alors là, pour le coup, ça se binge en une soirée à l'aise.
Ouais.
L'histoire, c'est quoi? C'est Tiff, une étudiante en psycho, qui donc le jour va faire ses cours et puis on nous la présente en tout cas comme ça, relativement réservée. Et puis la nuit, en fait, a un petit boulot pour, finir ses fins de mois correctement et aller en fait maîtresse dans un donjon SM. Donc déjà le parti pris est assez original entre guillemets de nous montrer cet univers là et puis on va y rentrer par du coup l'intermédiaire de Pete qui est un ami d'enfance,
son meilleur ami du lycée,
qui un peu pour les mêmes raisons parce que il vit dans une coloc un petit peu chelou et qu'il a vraiment besoin d'argent lui demander en tout cas se retrouver à devenir un petit peu son assistant et donc la suivre sur ses diverses interventions qui visent à satisfaire les fantasmes particuliers de ses clients. Alors, au début, j'ai regardé la série, enfin les premiers épisodes, j'ai fait vraiment, je pense que je vais abandonner très vite. Ça me plaît pas. C'est pas un univers qui me parle spécialement. Et en fait, c'est une série. J'ai trouvé que c'était une série qui était très intelligente parce que on pourrait s'attendre à un truc assez vulgos. Si on était du front entre guillemets, on pourrait se dire les SM machin, ça va être un peu drôle, on va faire des, enfin il va y avoir tout un univers un peu humoristique éventuellement ou alors glauque à la limite avec ce truc là.
En plus du sadomasochisme, on y rajoute le meilleur ami Pete qui est gay. Ouais. Du coup ça aborde vraiment tout.
C'est ça.
J'allais dire déviant, c'est absolument pas
tout
déviant.
Tout un univers un peu malaisant.
Tous les univers un peu méconnus.
Et aujourd'hui qui sont souvent traités soit de manière humoristique, soit de manière un peu glauque, un peu genre drama, etc. Ouais. Là finalement, ils prennent le parti de le traiter d'une manière très humaine, réaliste,
propre aussi. Ouais, c'est très
peut-être un peu propre,
un peu aseptisé.
Peut-être aseptisé. Après, il se passe quand même des choses.
Le colloque de Pete, il est pas aseptisé.
Je pense surtout aux clients qui, au début de la série, aiment se faire enlever. Et qui a des fantasmes assez particuliers.
Le pingouin.
Oui, le pingouin, ça c'est rigolo. Et donc, en fait, on va surtout découvrir la relation qui lie du coup Tiff à son meilleur ami. On sent qu'il y a quelque chose entre eux et on sent qu'ils ont des choses aussi à se prouver par rapport à la vie, clairement.
C'est le jeu de mots titre de la série, quoi, en fait.
Exactement. En plus, du coup, effectivement, bonding qui, en anglais, peut vouloir dire faire référence au côté SM avec
au
les
bondage.
Liens, se faire au bondage, exactement. Et aussi fait référence au fait de se lier avec les autres. Donc au final pas grand chose à raconter entre guillemets, c'est tellement court qu'il faut la regarder pour se faire une idée, mais j'ai trouvé ça vraiment tendre, vraiment bien vu, bien écrit. Les personnages ne sont pas caricaturaux, j'ai trouvé. Il y a des petites choses de temps en temps qui virent un peu, mais globalement on se prend très très vite d'affection pour eux. Et encore une fois, ça fait partie de ces séries qui parlent de sexualité, qui parlent de pratiques à la marge de manière très honnête et bienveillante. Et ça c'est super cool parce que ça fait une porte d'entrée sur quelque chose qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir, et du coup c'est assez rafraîchissant. Le mec derrière ça est un total connu, donc c'est vraiment, et il a en gros un peu tout fait, c'est-à-dire écriture, réal, production, donc c'est vraiment quelque chose qui débarque un peu de nulle part. C'est vraiment une petite pépite que Netflix aussi permet, à côté d'autres grosses productions un peu plus pataudes, on va dire. Donc je pense que ça a plébiscité, et puis Et puis voilà, ouais, donc vraiment...
J'aime bien les mots que tu utilises, Guillaume.
Petite série à voir.
Publicité, pataude. Oui. Franchement, c'est beau.
Mot contre triple.
Mais ouais, j'ai eu le même avis sur la série. Moi, j'ai trouvé aussi intelligente, très, très humaine. Et, ça montre un tas de trucs que plein de gens n'ont pas l'habitude de voir. Et ça le montre de façon simple et gentille, sans le côté péjoratif de ce que peut vouloir dire gentil, quoi. J'ai eu un seul souci avec la série, je crois qu'Atel Zeda a eu le même souci, c'est que par contre, ça va nulle part, en fait. L'histoire va nulle part, il nous manque quelque chose, quoi. Il nous manque quelque chose pour raccrocher le truc, quoi.
Elle souffre de, déjà.
Et la fin.
Elle souffre de son format, mais la fin, justement, est à l'image. Et... justement, tu le dis très bien, on va où?
C'est une introduction, quoi.
Est-ce que c'est une introduction? On va où? Est-ce qu'il y a une suite?
Faut pas s'attendre à suivre une histoire. C'est vraiment fou. En fait, tu rencontres juste des personnages. En cela, par contre, je suis entièrement d'accord. Enfin, vu le format de la série, c'est quand même que 7 épisodes, des épisodes qui durent 10 minutes avec t'enlèves les génériques, il y a 10 minutes d'épisodes. Et avec le peu qu'il y a, tu prends vraiment d'affection très rapidement pour les persos, quoi.
Les acteurs sont bons. Ouais.
Moi, j'ai eu un vrai coup de cœur pour le rôle, le personnage de l'étudiant qui tombe amoureux de Tiff.
J'ai en parlé aussi.
J'ai trouvé que lui, il avait une évolution dans la série qui était géniale. Tu le prends pour un abruti.
Assez impressionnant parce qu'il part d'un stéréotype de.
Tu le prends pour un abruti au départ et à la fin, tu le trouves génial comme type. Mais vraiment, non, il y a quelque chose dans cette série. Ça manquait peut-être, ça manquait d'une histoire en plus, quoi. Mm-hmm.
Un super pitch, mais qui souffre de son format et à voir comment il transforme un peu l'essai. Mais effectivement, il y a des aspects, même, enfin, un point, c'est con de le dire, mais que j'ai trouvé finalement pas mal, c'est que l'actrice principale tombe pas dans le cliché, tu vois, t'es sur une série sur le bondage, tu pourrais te dire, ils ont pris une grosse bombasse, tu vois, ou un truc comme ça. Et la meuf, en fait, elle arrive assez bien à passer, alors c'est sûr que quand elle est dans son cuir avec ses talons aiguilles et tout ça, elle a vrai côté un peu fantasmagorique, mais sinon, quand tout d'un coup elle repasse en étudiante, en nana du quotidien, elle est pas.
Fait vraiment étudiante.
Alors moi je trouve qu'ils font pas étudiants, ils sont trop âgés pour faire étudiant, c'est un peu un des trucs qui m'a gêné dans la série.
Aux États-Unis, ils sont au collège jusqu'à 25 ans.
Oui. Elle fait.
Ça a l'air d'être des cours du soir en plus.
Tu vois, elle fait The Girl Next Door, tu vois, la meuf de la porte de l'immeuble d'à côté, quoi. C'est pas la nana inatteignable, justement. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas la nana qui fait du SM qui est inatteignable. En gros, ça peut être n'importe qui. Et la vie parallèle, elle est propre à tout à chacun, c'est ça. Je pense que où va la série, elle va là.
Et je sais pas si on l'a dit, mais c'est une série drôle. Je crois qu'on l'a pas précisé. En fait, je me rends compte que c'était pas évident la manière dont on en raconte.
Peut-être effectivement, ouais.
Mais c'est pas une série que comique, c'est du tragi-comique, mais c'est quand même une série drôle. Il y a des scènes avec le colloque de Pete qui sont à mourir de rire, quoi.
Lui, c'est un personnage bien barré, effectivement. Donc voilà, Bonding à découvrir sur Netflix. Et puis, avant de conclure, je crois que ATLZA, tu voulais nous parler, nous faire un petit rap de quelque chose sur Fleabag.
Ouais, alors en fait, Fleabag, on n'en a jamais parlé. On l'a pas présenté en tant que série. Par contre, on l'a souvent abordé. On l'a abordé dans le dernier épisode dédié aux séries. Oui. Je sais plus, Chenin nous parlait d'une autre série. On l'a renvoyé vers Fleabag en disant, putain, vas-y, c'est énorme et c'est génial et tout ça.
Série Amazon, donc.
Ouais, et donc en fait... Là, pour le coup, je sais que Juke est comme moi. Juke, comme moi, on a beaucoup aimé la saison 1. Et suite à la saison 2, on a révisé notre note à la hausse pour la passer à 10 sur 10.
Mais je croyais que ça sortait le 17 juin. Moi, quand je vais sur Amazon Prime, non. Le truc me dit que je peux pas regarder la saison 2.
Parce que c'est pas une production Amazon Prime. Amazon Prime récupère les droits derrière pour la diffuser, mais il la diffuse après que...
Ils ont le même problème
donc
avec...
Donc vous l'avez pas vu sur une plateforme.
Ils ont le même problème avec The Man in the High Castle. C'est-à-dire qu'ils sont... C'est disponible chez eux après à d'autres endroits autres.
Comme donc, mon VPN marche plus, c'est mort.
Donc on est sur une série qui était excellente sur la saison 1, que Juke, lui comme moi, suite à la saison 2, on a révisé notre note à la hausse pour la passer tous les deux à 10 sur 10. Ouais. On la tient en très haute estime. Et on avait dans les commentaires tous les deux qu'on a mis sur cette série qu'elle était tellement bien que justement on voulait pas quelque part la voir s'allonger sur 10 saisons et ce genre de choses. Donc je voulais en parler car c'est fini.
Ah, oui, mais c'est bien, du
il
n'y
aura
coup.
Pas de saison 3.
Elle,
c'est une bonne
elle,
va c'est
même,
triste quand même.
Elle va quand même avoir une seconde vie grâce
non,
à cette
non, mais
très
vraiment,
mauvaise
ça,
idée.
Je veux pas en parler de
cette
la mouche.
Très mauvaise idée ouais. Voilà, d'adaptation
même,
française.
Même,
donc,
même
donc RIP,
si on marche pas à Fleabag, ça veut dire sac à puce. En français, ils l'ont appelé mouche. Ça veut pas dire.
C'est alors,
évidemment, ça veut pas dire la même chose. Mais ça appelle pas le même. Enfin, il y a pas la même idée derrière.
Non, mais là, pour faire l'aparté, effectivement, donc on a au moins vu la bande-annonce donc de l'adaptation française. Alors déjà, première erreur. Une adaptation parce que c'est de l'humour anglais donc on veut pas forcément voir une adaptation
carrément pas carrément.
En plus donc c'est Camille Cotin qui reprend le rôle principal et je pense beaucoup bien d'elle dans 10%. Mais là, dans la bande-annonce de Fleabag, c'est fini. Je veux dire, début de la bande-annonce, bim, elle a flingué le truc. Elle a pas ce style, elle a pas cette qu'a l'actrice anglaise.
Je l'ai montré à quelqu'un j'ai montré Fleabag. Enfin, j'ai dit à quelqu'un qu'il fallait qu'elle voie Fleabag. Elle l'a regardé la saison 2. Avant de regarder la saison 2, on était tombés tous les deux sur la bande-annonce de Mouche. Je lui avais dit que dans Fleabag, un des trucs géniaux dans Fleabag, c'est la manière dont Phoebe Walter, je sais plus comment, l'actrice principale qui a écrit la série, c'est la manière dont elle casse le quatrième mur. Elle le fait de manière géniale. C'est toujours souligné. C'est super rigolo quand elle le fait.
Ouais, carrément.
Et dans la bande-annonce de Mouche, Camille Cotin le fait et c'est non, ça marche pas.
Ça tombe à plat, complètement à plat.
Enfin bon, c'était pas essayer d'adapter les humours, c'est quand même dingue qu'on continue à essayer de faire ça. L'autre jour, j'ai regardé le remake de Dîner de cons qui s'appelle Le Dîner là, ouais. En américain qu'on trouve sur Netflix. C'est catastrophique. Je veux dire,
mais toi, t'aimes te faire souffrir. Tu nous diras ce que t'as pensé du remake d'Incassable par les amis Incassable.
Intouchable.
De Intouchable.
Ah ouais, bientôt, je te dirai ça.
Donc voilà, bon. Donc je voulais juste faire un aparté sur Fleabag, pas pour en reparler profondément, mais pour dire, RIP Fleabag.
Et on n'est pas sûr, on n'est pas les seuls à l'adorer parce que l'actrice, donc, principale, qui est aussi, donc, la scénariste, l'actrice principale, etc., de la série, elle est même appelée un peu partout pour scénariser des trucs. Elle a été appelée sur le dernier James Bond pour.
Mais cette meuf, je voudrais que ce soit ma meilleure amie, quoi.
Elle est géniale. Ouais, son personnage est génial. La façon dont elle le joue est géniale. Mais oui, du coup, on n'est pas les seuls à apprécier Fleabag. La BBC a essayé de lui pousser au cul pour qu'elle continue d'écrire la série. Elle a refusé.
On l'aime bien.
Une petite troisième saison.
Ouais, non, mais elle le fera pas. Elle a été appelée sur le dernier James Bond pour participer au scénario. Enfin, du coup.
T'as les mecs qui mélangent tout, quoi. Tu passes de Fleabag à James Bond. Ouais, je vois bien le rapport.
Ouais, mais si t'es un bon scénariste, t'es peut-être un bon scénariste pour tout, peut-être.
Putain, James Bond qui casse le quatrième mur. Ça serait bon. Il voit passer une nana et plutôt qu'essayer de la séduire à la James Bond, il fait celle-là, j'aime la faire.
Et elle a même joué dans Han Solo.
Ok, très bien, nous avons atteint donc le point de non-retour de cet épisode sur les séries, en parlant beaucoup trop de films.
Non, ça vous dit pas de savoir quel personnage c'est dans Han Solo?
Si, elle joue le robot, ouais.
Merci.
Donc j'espère qu'on vous aura donné envie de regarder toutes ces séries et puis que vous irez du coup les noter sur Kifim et les commenter pour échanger avec nous sur tout ça donc on se retrouve pour un prochain épisode sur la thématique cette fois des livres.
Salut,
ciao. Salut,
bonne soirée, ciao.